Donc bonjour à tous, une conférence de presse avec un unique objet qui est la programmation de France Culture au Festival d'Avignon. C'est l'histoire et la poursuite d'une longue collaboration entre France Culture et le Festival d'Avignon. Alors je vais faire un rapide tour de table et un tour de présentation. Bien évidemment, tout près de moi, Laure Adler, la directrice de France Culture. Blandine Masson, la directrice de la fiction à France Culture. Joëlle Gaillot, productrice. Laurent Goumard, producteur. Anne Brunel, responsable du site internet de France Culture. Et ensuite, deux des invités de ce programme France Culture à Avignon. Hubert Collat, qui par ailleurs monte Hamlet dans le cadre du IN. Et Jean-Pierre Vincent, qui est là spécialement pour Laure Adler. Donc, Laure Adler, quels sont, on va pas égrener jour après jour les rendez-vous de France Culture au musée Calvé, à la mi-journée, à la soirée, mais quels sont les grands axes de cette programmation? D'un côté, des lectures de textes de metteurs en scène, ce qui explique Hubert Collat et Jean-Pierre Vincent, et de l'autre, des rencontres et des débats.
Alors d'abord, dire tout notre soutien à l'équipe actuelle du Festival d'Avignon, Vincent Baudrier et Hortense Archambault. Dire que tout France Culture est contre cette bronca qui se développe dans certains médias. À Avignon, il y a aussi des textes contemporains, il y a aussi du théâtre. Donc je voudrais redire toute ma solidarité et mon amitié avec l'équipe actuelle du Festival d'Avignon. Je voudrais dire aussi que France Culture est le premier employeur de comédiens en France, plus que la Comédie française et le théâtre de l'Odéon réunis. Dire que cet espace d'Avignon pendant lequel les équipes de France Culture, aussi bien de producteurs que de lecture, que de mise en espace au musée Calvé, c'est un moment suspendu, c'est un moment de grâce et d'harmonie, de création, de découverte et d'habitation des textes, qui nous donne la possibilité pour nous à France Culture de montrer le travail très secret que nous faisons tout au long de l'année, chaque jour, puisque chaque semaine, France Culture diffuse 7 heures de fiction. Chaque semaine, France Culture emploie tout au long de l'année plus de 10 000 cachets de comédiens. France Culture offre à ses auditeurs qui sont sevrés, soit pour des raisons géographiques, soit pour des raisons de classe sociale, de théâtre toute l'année, offre des textes contemporains, offre de la création à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas aller au théâtre. Donc c'est un moment pour nous privilégié pour rendre public, rendre physique, rendre palpable tout le travail en studio que nous faisons à Radio France tout au long de l'année. Alors les axes, ils sont très simples. Tous les jours à midi, nous avons passé des commandes à des metteurs en scène contemporains qui sont pour nous extrêmement importants, parce qu'ils apportent la vitalité, la nécessité que le théâtre ait un rapport au monde qui nous permet d'être plus citoyens, plus tolérants et plus créatifs à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je vais laisser la parole aux deux artistes qui sont là. Hubert, peut-être tu vas commencer.
Oui.
Je sais que c'est un peu tôt.
Oui, bon. Bonjour. Suite à l'invitation de Laure Adler et Blandine Masson, en fait, je me suis interrogé sur ce que pouvait représenter pour moi une écriture qui était différente de celle que je pratique habituellement, d'écrire des textes pour le théâtre. Et quand cette proposition est venue, j'étais en pleine reprise des répétitions d'Hamlet et je me disais quelle pratique je pouvais tenter de transmettre par l'écrit de ce que nous faisions à la compagnie. Et donc en fait c'est le paysage comme ça qu'on propose cette semaine d'écoute sur le travail de mise en scène, c'est tout un texte qui s'est élaboré en parallèle des répétitions d'Hamlet pour une rencontre, si on peut dire, avec cette œuvre là et comment à un moment donné l'idée de l'attachement que j'ai sur l'écriture et la retraduction de ce texte là et la naissance du corps de l'acteur, c'était en fait peu à peu, chaque jour, comme un journal de bord qui exprimait comment les acteurs se dévoilaient à cette œuvre ci c'est un peu le chemin que j'ai proposé de faire, avec à l'intérieur de ça des particularités en fait qui étaient pour moi importantes. C'était comment inscrire dans ce ce moment d'écriture qui retraçait mes répétitions, le souvenir de quelques metteurs en scène que j'avais pu croiser depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, et dont un des metteurs en scène, si je ne m'abuse, qui était invité aussi, qui était Anatolie Vassiliev, et que j'avais pu rencontrer à Moscou. Donc c'était d'un seul coup, au fur et à mesure que ce texte s'écrivait, et s'écrit encore, puisque c'est dans 4-5 jours qu'il sera révélé, j'ai souhaité qu'il soit fait ainsi pendant le festival, qui se finisse, de façon qui corresponde bien aussi au travail de l'acteur qui chaque jour est en essence. Et donc ces maîtres, par moments, qui ont croisé mon travail, ou que, plutôt moi qui ai croisé leur travail, ont inspiré comme des moments de mémoire, d'ombre et de fantôme à l'intérieur de la mise en scène d'Hamlet. Donc c'est ce texte-là que je proposerai.
Et c'est le 16 juillet, donc, au Musée Calvé, à 12h.
Voilà, ça sera tous les jours à midi, ça commence dans une demi-heure, on vous attend nombreux, avec le journal de bord, ce sont tous des textes inédits, par définition, de Romeo Castellucci.
Non, ça commence mercredi.
Mercredi, pardon, de Romeo Castellucci, et puis à partir de mercredi, tous les jours, il y aura celui de Rodrigo Garcia, dont on attend les dernières pages, il y aura celui de Jean-Pierre Vincent. À toi, Jean-Pierre.
Qui attend lui-même ses dernières pages.
Oui.
Je suis dans le même cas que...
Histoire,
Hubert, peut-être pour des raisons inconnue. Un peu différentes. Je n'avais pas à me différencier comme Hubert d'un autre type d'écriture parce que, hélas, je suis une des personnes du théâtre les plus nulles pour écrire de la fiction, pour écrire du théâtre. À chaque fois que j'ai essayé, c'était à pleurer. Mais il paraît que j'écris pas mal d'autres choses, enfin, des notes, des lettres. Je voulais au départ... Lire mon journal de voyage d'une tournée du Jeu de l'amour et du hasard en Russie en 2000, qui est un tableau cataclysmique de la Russie. En fait, j'étais parti avec un cahier de dessin et à la première minute, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je dessine, mais qu'il fallait que je note tout ce que je voyais et que j'entendais parce que je n'arriverais pas à m'en souvenir. Bon, puis finalement, il m'est arrivé depuis cette proposition une autre aventure. J'ai monté au grand théâtre grec de Syracuse, 8000 places, le 13 mai dernier, les 7 contre Thèbes d'Eschyle. C'est un des grands rendez-vous du théâtre méditerranéen, ce théâtre, c'est très célèbre. Et ça a été une aventure incroyable. Déjà, pour un Français travailler en Italie, c'est pas de la tarte, mais en Sicile, je vous conseille le voyage, vraiment. Ceci dit, je travaillais une pièce extraordinaire avec des acteurs formidables. On a franchi le premier cercle de l'enfer de Dante avec courage et on a fait un beau spectacle. Et donc, je vais essayer, à travers mes notes préparatoires, un certain nombre de lettres que nous nous sommes envoyées à l'intérieur de l'équipe, vous donner à imaginer un spectacle que vous ne verrez jamais, avec des mots. De vous mettre dans la tête un spectacle qui s'est déroulé il y a 2 mois à Syracuse. Voilà, tout simplement. Avec, bien sûr, à l'intérieur de ce récit, des notes dramaturgiques, etc. Le travail, la réalité du travail. Et à la fin, je ferai passer dans l'assistance des photos du spectacle pour voir si le spectacle correspond à ce que vous aurez imaginé. Voilà.
Donc c'est de l'interactivité, Jean-Pierre. Donc il faut que les spectateurs viennent avec des petites notes pour pouvoir te proposer des notes et ça donnera peut-être un journal inédit pour l'an prochain.
Un blog,
voilà, le blog d'Avignon. Alors dans les orientations de la programmation de France Culture cette année, il y a des propositions de revisitation d'auteurs qui obsèdent, tourmentent et nourrissent les metteurs en scène et aussi les acteurs aujourd'hui. Et il y aura des soirées autour d'Antonin Artaud, autour de Pier Paolo Pasolini. Il y aura aussi la proposition de découvrir un texte absolument magnifique de Pierre Ascaride. Je vais laisser la parole à Blandine Masson qui va vous expliquer les propositions aux invitations au voyage que fait France Culture dans ce lieu unique qui est la cour du Musée Calvé.
Bonjour. Alors, effectivement, on commencera le 13 juillet avec le spectacle de Pierre Ascaride, Inutile de tuer son père, qu'il reprend en fait, qu'il a déjà joué, et qu'il reprend au Musée Calvet pour Avignon. Et ensuite, c'est effectivement un voyage autour et à travers deux grandes figures à la fois du théâtre et de la littérature, qui sont d'une certaine manière en écho avec ce festival aujourd'hui. C'est, on pense à Artaud et puis Pasolini. On peut dire que notre programmation comme ça est entre ces deux grandes figures. Et au milieu, je ne veux pas oublier Jacques Derrida. Donc peut-être Laure dira un mot, qui est un hommage à Jacques Derrida proposé par France Culture. Pour Artaud, il s'agit le 14 juillet d'un ensemble. L'après-midi, on vous propose une écoute radiophonique au Musée Calvet de la conférence au Vieux Colombier qui avait été enregistrée par Philippe Lévenot, qui est un immense acteur qui donc a disparu. C'est une façon de lui rendre hommage aussi à lui. Et il avait donc enregistré ce texte pour la radio en 2001. Donc on pourra réécouter Philippe Clévenot avec Artaud, et cette écoute sera suivie d'une rencontre donc autour d'Artaud, c'est-à-dire comment les metteurs en scène aujourd'hui dialoguent avec Artaud, de quelle manière ils retrouvent ou ils peuvent retrouver Artaud aujourd'hui. Donc c'est Georges Bagneux qui anime cette rencontre et qui sera entouré de Thomas Ostermeyer, Romeo Castellucci, Evelyne Grossman qui était responsable qui a réédité l'œuvre d'Artaud chez Gallimard, Jacques Delcuvelry et puis Laurent Poitrenaud qui lira des textes d'Artaud et qui parlera de son expérience d'acteur en résidence avec Artaud. Et puis Pasolini le 17 juillet de 19h à 21h, c'est à la fois un travail de création radiophonique et un travail d'hommage à Pierre Paolo Pasolini. Les textes ont été choisis par Joël Gaillot et accompagné de René Tsekati qui participera à l'ensemble. Et c'est un voyage évidemment pas dans toute l'œuvre de Pasolini, mais c'est une sorte de traversée à la fois chez le poète civil engagé, l'homme de théâtre. Mais c'est vrai qu'on a plutôt fait appel à ses textes de prose, à sa poésie qu'à son théâtre. Je voulais juste vous rappeler les acteurs, Jean-Quentin Châtelain, Dominique Fraud, Denis Lavant, Charles-Éric Petit donneront donc leur voix, offriront leur voix à Pasolini dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy.
Vous évoquiez le fait que Artaud et Pasolini soient en écho à la programmation du festival
IN.
On a
travaillé avec Vincent là-dessus.
Voilà, justement, je voulais savoir si vraiment c'était un choix tout à fait intentionnel de la part de France Culture de s'inscrire dans la programmation du IN et de, selon son slogan, prendre du recul, sinon on ne comprend rien, ou s'il y a eu un effet de hasard, mais vous avez répondu.
Non, il n'y a pas de hasard, peut-être Laure voudrait...
Oui, non, c'est un travail constant avec Vincent Baudrier et Hortense Archimbault qui a commencé dès le mois de juillet, la fin du mois de juillet de l'année dernière. C'est comment vous, les spectateurs du Festival d'Avignon, vous pouvez être éclairés, vous pouvez être habités, vous pouvez interpréter mieux ou comprendre mieux certains enjeux et certaines orientations du Festival d'Avignon, même si France Culture apporte aussi sa différence, notamment par cet hommage à Jacques Derrida. Vous le savez, le théâtre se nourrit aussi de philosophie. Jacques Derrida était un amoureux du théâtre, un amoureux du Festival d'Avignon. Il a disparu cette année. France Culture a souhaité lui rendre hommage. C'est un homme qui aimait l'absence de cloisonnement et qui aimait se faire nourrir non seulement par les textes d'auteurs de théâtre, mais aussi par les artistes, par les poètes, par les plasticiens. Et un hommage lui sera rendu aussi au cours du Musée Calvet. Puis je voudrais dire qu'à titre personnel aussi, moi je suis une amoureuse depuis très longtemps du Festival d'Avignon, ce qui m'a conduit à vivre une grande partie de ma vie ici à Avignon, et donc à nouer des amitiés. Donc dans le cadre de France Culture, cet été et cette semaine aussi, en partenariat avec le cinéma Utopia Manutention, qui toute l'année à Avignon fait un travail remarquable, nous allons aussi vous proposer deux événements, notamment un cycle autour de Thomas Barnett, de Matthew Barnett, et notamment une découverte d'un film des années 60 avec Claudia Cardinale. Donc on vous attend nombreux le 14 juillet à l'Utopia Manutention, parce que France Culture Avignon, c'est 7 semaines particulièrement intenses, mais c'est aussi des liens qui perdurent tout au long de l'année. Et puis je vais donner la parole au couple de l'année qui toute l'année, tous les samedis, vous donne, j'espère, l'envie, le goût et le désir d'écouter du théâtre, d'aller au théâtre, d'écouter celles et ceux qui font le théâtre au quotidien. Je veux parler de Joël Gaillot et de Laurent Goumard.
Couple à la scène, hein,
oui.
Précise.
Ah.
Non, c'est vrai que Arthur et Pasolini, d'une certaine manière, on va sans doute en parler mercredi 13 juillet à l'occasion d'un Radio Libre qu'on coproduit, Laurent et moi, qu'on co-anime. Radio Libre qui est organisé autour de Yann Fabre et forcément, il sera sans doute question d'Antonin Artaud du Théâtre de la Cruauté, il sera sans doute aussi question de Pasolini dans ce qu'il a pu avoir de scandaleux et de très contesté lorsqu'il était de son vivant. Et c'est curieux d'ailleurs de quelle manière aujourd'hui Pasolini est de nouveau sous les feux de l'actualité puisque le procès de Pelosi, l'assassin présumé, a été réouvert et on s'interroge fortement sur les circonstances de l'assassinat de Pasolini. Yann Fabre, ça va être l'occasion de sans doute lever certains malentendus, d'éclairer là aussi les personnalités, non pas là, mais les personnalités, les multiples facettes d'un homme qui se dit chorégraphe, mais aussi plasticien, mais aussi performeur, mais aussi auteur, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Ça a pu en poser le soir de l'ouverture, ça continuera sans doute à en poser tout au long du festival. Je pense que le Radio Libre va s'attacher à donner quelques lumières sur une étrange personnalité et un parcours d'artiste qui est polymorphe, parfois un peu envahissant, qui peut soulever des réserves, mais qui en même temps nécessite aussi une prise de distance. Il y aura beaucoup d'invités dans cette émission pour permettre aussi d'avoir ce recul nécessaire pour avoir une réflexion sur Yann Fabre. Laurent.
Je vais pas revenir sur Yann. En effet, donc le Radio Libre, c'est 15h30, 17h30 au musée Calvé. Donc couple à la scène comme elle l'a bien mentionné. Donc je suis libre en fait. Et donc un couple à la scène peut aussi se séparer. Donc moi je vais juste parler en une minute du cycle Crimaster, donc de Mathieu Barnet, que je vais juste présenter tout seul. Ça sera donc j'ai une vie aussi, Joël, à l'Utopia à Manutention. Donc Crimaster, Mathieu Barnet, bon, il est connu pour de mauvaises raisons. C'est un ex-mannequin et c'est le mari de Björk. Enfin, c'est des très très bonnes raisons aussi. Et Crimaster, c'est ce que ça signifie, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, parce que ça éclaire mon parcours, c'est-à-dire que c'est sur la danse aussi. Crimaster, c'est le muscle qui est sustenteur des testicules, ce qui donne un peu le côté pulsion de vie organique qui anime ce travail. Et c'est vraiment en résonance avec le festival, ce cycle, pour une simple raison, c'est que donc c'est un cycle de 5 films, et ces films sont nés de performances en fait. Et quand on regarde Yann Fabre au départ était un performeur, et à partir de la performance, il a contaminé tous les arts. Quand on regarde Marina Abramovic, qui est programmée dans le festival, au début on la connaît, c'est comme elle se présente elle-même, la grand-mère de la performance, et à partir de la performance, aujourd'hui elle réinvestit le chant théâtral qu'elle nous a dit lors du dernier chantier, qu'elle aborait. Enfin, élaborer le théâtre, tout ce qui est théâtre, le noir, le faux. Mais c'est vrai que la performance, depuis quelques années, que ce soit en danse, que ce soit au théâtre, et même donc au cinéma, c'est quelque chose qui permet de rejouer la présence de l'acteur, du danseur, dans le spectacle vivant. Donc Mathieu Barnet avait vraiment sa place dans le festival pour cette raison.
Merci Laurent. Et puis vous savez, France Culture, c'est une radio, c'est aussi une radio, mais ce n'est pas simplement une radio, c'est une banque de programmes, c'est une université populaire, c'est un approfondissement du contemporain, c'est une prise de risque, c'est une mise en perspective, et c'est aussi Internet. Alors Anne Brunel a littéralement fait exploser l'audience de France Culture par le site qu'elle a créé. Dès que Internet est arrivé, tout de suite, j'ai eu la chance, moi, de vivre ce moment. Et nous avons décidé, avec l'ancien PDG de Radio France, Jean-Marie Cavada, de mettre des moyens très importants pour faire en sorte que celles et ceux qui ne peuvent pas écouter France Culture puissent l'écouter autrement. Soit parce que les émissions qu'ils aimeraient entendre et ne peuvent pas l'entendre parce que géographiquement, ils sont au travail, ils sont en déplacement ou qu'ils sont aux quatre coins du monde. Et aussi, France Culture, grâce à Internet, peut être écoutée dans la totalité de ses programmes, désormais, durant une semaine. France Culture propose aussi un approfondissement de ses propres émissions et de ses propres thématiques, toujours grâce à ce site qu'a créé Anne. Et France Culture a créé pour vous, à Avignon, grâce à Anne, à qui je vais donner la parole, à l'intérieur du site Internet de France Culture, qui a vu une véritable explosion de ces internautes à l'intérieur de Radio France, La progression des internautes de France Culture est absolument prodigieuse par rapport à l'ensemble de toutes les chaînes de Radio France. Et Anne a créé pour vous un site fiction qui est vraiment la caverne d'Ali Baba, le labyrinthe de l'imaginaire et en même temps l'approfondissement de la possibilité de comprendre pourquoi le théâtre, c'est vital. Alors Anne, on va conclure cette petite conférence de presse avec ce que tu as fait.
Donc l'idée de France Culture à Avignon, comme Laure vous l'a expliqué en préambule, c'était de révéler au public que vous êtes la façon dont la fiction se fait à France Culture. L'idée du site internet de France Culture et de cet espace dédié à la fiction à l'intérieur de ce site, c'est d'expliquer de façon un peu détaillée, à base de photographies, de textes et d'interviews écoutables également, comment la fiction à France Culture se fait tout au fil de l'année. Ça veut dire que dans cet espace portail de la fiction sur le site de France Culture, on peut suivre un petit peu le making of des différentes fictions qui sont proposées sur France Culture au fil de l'année. Les interviews des personnes qui concourent à cette fiction, les réalisateurs, les bruiteurs, les techniciens, les auteurs, les comédiens, que sais-je encore. Petit à petit, ça se constitue, parce qu'encore une fois, ce portail est très récent, on l'a ouvert il y a à peine un mois. Et notre présence ici à Avignon avec Isabelle Lassalle, avec laquelle nous allons donc travailler pendant toute la durée de cette semaine, pour accompagner les productions de France Culture ici à Avignon. L'objet, c'est donc de révéler la façon dont une radio décide finalement de se mettre en scène, de se produire en spectacle. Qu'est-ce que c'est qu'une radio qui se présente sur un plateau et pourquoi? Donc c'est un peu ce travail-là qu'on va vous proposer au fil des jours. À partir de demain, on va procéder à ce travail auprès des intervenants de France Culture, auprès des auteurs, des comédiens, etc., des gens qui concourent à cette fabrication pour que vous puissiez le comprendre, le réécouter, le relire, le regarder. Comme Jean-Pierre Vincent évoquait les photographies qu'il va distribuer à la fin de sa lecture, bon, ce sont des photographies qu'on retrouvera sur le site de France Culture pour pouvoir mettre en regard cette lecture, cette écriture et cette photo pour, à partir d'un puzzle, comprendre comment la radio se fait, comment le spectacle se monte.
Anne Brunel, merci. Il faut préciser, outre toutes ces propositions, que certaines émissions de France Culture se font en direct de l'école des Ortolans, et c'est le cas du chantier avec Joël Gaillot et Laurent Goumard, mais aussi de Tout arrive entre 12h et 13h de Marc Voinchet du 13, 14 et 15 juillet, et de Travaux publics de Jean Lebrun de 18h à 19h30, je crois les mêmes dates, c'est-à-dire les 13, 14 et 15 juillet. Alors pour des raisons de timing, nous sommes obligés de nous arrêter là. Cependant, j'aimerais Laure Adler quand même, avant de mettre un point final à cette petite rencontre, savoir si l'an prochain, on vous retrouvera à Avignon et dans quelle fonction, sachant que vous quittez la direction de France Culture dans quelques semaines.
Eh bien, je serai assise sur un banc, là, comme vous toutes et vous tous. Je vous écouterai parler et je viendrai, comme tous les ans, depuis 1968, ce qui ne me rajeunit guère, au Festival d'Avignon, et je vais retrouver des fonctions que j'occupais avant, avec un grand bonheur, c'est-à-dire, comme vous tous, là, Joël, Laurent, j'espère qu'ils m'accepteront, je vais redevenir productrice à France Culture et j'interviewerai, je prendrai pas votre place, ne vous inquiétez pas, je prends une place qui est restée vacante et je retrouverai la fonction qui est la mienne et que j'adore par-dessus tout, c'est-à-dire transmettrice d'artiste, voilà, essayer de dialoguer avec toutes celles et ceux que j'admire tout au long de l'année, qu'ils soient comédiens, metteurs en scène, écrivains, etc.
Accoucheuses,
péripatéticiennes.
Ne connaissant pas la grille de France Culture par cœur, quelle est cette émission vacante?
À voix nue, ça s'appelle. Voilà. Et puis je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, les équipes ont été obligées de revenir à Paris parce que, comme vous le savez, hélas, Claude Simon est mort. Et nous sommes en train de préparer en ce moment même sur France Culture un hommage à Claude Simon qui commence à midi. Que demain, les équipes de France Culture seront à Aix-en-Provence, où il se passe des choses aussi tout à fait exceptionnelles. Qu'à partir de mercredi, toutes les équipes de France Culture sont à Avignon. Et que vendredi, samedi et dimanche dernier, c'est-à-dire hier, avant-hier et il y a 3 jours, nous venons de vivre une aventure absolument formidable à Nîmes, un petit festival que nous avons créé dans la cour d'un hôtel particulier où nous avons pu proposer à des Nîmois qui sont venus nombreux un parcours à la fois autour des textes de Maspero interprétés par Michel Piccoli le vendredi, une invitation au voyage avec Marguerite Duras, avec notamment Axel Boukokowski, Michael Lonsdale et Cécile Baquès. Et hier, une merveilleuse soirée autour de Pouchkine et de Jeanne Onéguine avec André Markovitz, El Mosnino, Denis Podalydès. Donc nous sommes tous déjà complètement emportés dans ce désir de théâtre et très heureux de planter nos tréteaux à Avignon où nous vous invitons à venir nombreux, venir écouter les émissions en public aux Ortolans. C'est une école, une petite école élémentaire, ça fait toujours du bien d'être parmi les enfants, et les spectacles et les lectures à l'intérieur de ce très beau lieu qu'est le musée Calvé à quelques encablures d'ici. Merci à vous toutes et à vous tous.
Merci Laure Adler. Je laisse la place à Georges Banu pour les regards critiques.
Georges qui va travailler avec nous.
Nous proposons dans le cadre des rencontres du festival ce cycle qui s'intitule Regard critique, et je parle avec un nous qui n'est pas du tout un nous de majesté, c'est un nous qui témoigne de la complicité entre Bruno Takels et Georges Banu, moi-même. Nous occupons un peu dans le théâtre des positions, je pense, un peu similaires entre dedans-dehors. Pas tout à fait dedans, mais pas tout à fait dehors non plus. Nous sommes de deux générations différentes, et je vais essayer de parler de plus en plus fort pour combattre le mistral, le bruit. Donc il faut prendre le ton militant pour défendre ces rencontres. Donc j'animais un certain nombre de rencontres ici, des rencontres qui étaient liées plutôt aux productions ponctuelles du festival, de chaque artiste. Et depuis l'année dernière, Bruno et moi, nous proposons, dans le cadre du festival, ce cycle de regard critique qui nous permet, en quelque sorte, de dégager certaines lignes de force du festival, certaines lignes de force du paysage théâtral contemporain, dont nous allons parler ensemble en présence des artistes qui les représentent et qui peuvent les commenter. L'idée de ce cycle, c'est une idée assez simple au fond, c'est plutôt de ne pas entrer dans la relation simplement ponctuelle et concrète du travail, mais aussi à plusieurs, de voir un peu quels sont les jeux, les tensions, les contradictions du paysage théâtral contemporain, et cela en s'appuyant sur les spectacles du festival et sur les spectacles, bien entendu, des artistes ici présents. Donc, Bruno, si tu veux dire quelque chose d'autre pour le début, ou je continue?
C'est pas mal jusqu'à présent, ça va bien.
Voilà, donc nous sommes partis de cette idée qu'une des mutations importantes du théâtre de ces derniers temps, c'était l'émergence en quelque sorte d'une fracture, si on peut dire l'émergence d'une ligne de séparation entre des univers poétiques, des univers singuliers qui s'expriment de plus en plus, et le maintien sur les remparts de la citadelle du texte, de l'interprétation, des lectures. Donc nous pensons que le festival, malgré l'impression que certains organes de presse, certaines radios ont donné, nous pensons que le festival témoigne de cette tension. Du fait que d'un côté, nous assistons à cette présence de plus en plus explicite des univers singuliers, signés par le terme vient de la revue Mouchement et de Bruno et de Jean-Marc Adolphe, signés par les auteurs de la scène, et de l'autre côté, le maintien très fort des metteurs en scène qui se place dans une relation complexe, renouvelée, mais qui s'appuie toujours sur, comme on dit en italien, la terre ferme des textes. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est plutôt une rencontre autour de cela, que chacun émette un peu sa position, qu'il explique un tout petit peu son parcours par rapport à cette problématique. Et nous allons faire appel aussi à des exemples qu'on pourra voir plus tard dans le courant du festival. Et nos invités sont Jean-François Perrier, qui a réalisé l'ensemble des entretiens pour le dossier de presse et le programme du festival, donc qui a une vision des grands choix et de la totalité, presque plutôt de l'aspect théâtre du festival. Christian Rizzo, qui est danseur, qui a un parcours très, très particulier, dont malheureusement je verrai le spectacle seulement demain. Hubert Collat, qui est à la fois plasticien, metteur en scène et auteur, et qui signe une mise en scène remarquable et dont nous allons parler tout à l'heure, d'Hamlet, et signe des temps, il y a Jean-François Sivadier et Nadia qui sont là pour parler de leur parcours et de cette initiative extraordinairement importante, je pense, sur la valorisation des textes, la présence de Galiléo Galilei et de la mort de Danton.
Peut-être un petit complément de bonjour d'abord à tous. C'est donc effectivement la deuxième année que Georges et moi nous livrons à cet exercice, alors il faudrait dire déjà qu'il essaye de sortir d'une chose, moi je trouve, qu'on a un peu trop, dont on a abusé pas mal ces dernières années, c'est un peu la notion de communication, c'est-à-dire que chaque artiste vient pour parler de son travail, pour parler de ce qu'il est en train de faire dans le festival. C'est d'emblée pas de ça dont nous avons envie de parler d'abord. C'est-à-dire, on va pas vous poser des questions des questions qui vous ont pour beaucoup été déjà posées 10 fois dans les 24 heures précédentes. Donc ce sera pas ça l'entrée. L'entrée, c'est plutôt à chaque fois sur ces 5 rencontres de trouver une sorte de questionnement. Alors parfois de l'improviser un peu. Je vous cache pas que les plannings des uns et des autres font que parfois on se rattrape aux branches et que les invitations se font un peu au dernier moment. Mais je trouve par exemple, pour commencer très concrètement cette rencontre avec nos invités, que on a là au fond trois univers, trois foyers de théâtre, trois propositions, comme on dit, trois postures artistiques qui sont très révélatrices du paysage de la scène ou des scènes tel qu'il se développe depuis une dizaine d'années. Alors si je tente comme ça, encore une fois, donc pas forcément pour poser une question, mais simplement pour lancer une première pierre, poser une première couche, si je tente comme ça d'en dire quelques mots, il me semble que avec Jean-François Sivadier, Nadia von der Heyden et toute son équipe, j'ajoute d'emblée, et toute son équipe, parce que c'est une équipe artistique. Il y a véritablement, je peux pas dire Jean-François Sivadier a monté la mort de Danton. Je pense que ce serait pas juste. Ça ne me paraît pas satisfaisant. Une fois qu'on a dit ça, on a dit une formule simplifiante, mais on n'a pas été au bout de la manière de faire théâtre qui est la vôtre à l'ensemble de cette équipe d'acteurs, de techniciens, de conseillers, de dramaturges à un moment qui deviennent acteurs ensuite, de scénographes. Bon. C'est une manière de faire théâtre assez singulière et j'ai envie de la nommer en reprenant un mot au fond assez ancien, hein, qui serait celui de la troupe. On pourrait parler d'un travail de troupe, un travail qui va chercher du côté d'une origine ancienne, l'origine foraine, l'origine des tréteaux, l'origine du théâtre se faisant sur un petit carré de bois. Hein, cette idée que pour faire théâtre, il suffit d'un petit tréteau surélevé, quoi, parce que là on voit, hein, quelque chose se dégage dans l'horizon. Et une parole peut s'énoncer. Donc il me semble s'il fallait quelques mots simples, redire quelques éléments vous concernant, il me semble que votre travail s'ancre dans cet endroit qui est un endroit de l'origine du théâtre. Et que du coup, un autre mot qu'il faut amener d'emblée, il se situe ce travail de troupe un peu en deçà de ce qu'on pourrait appeler le travail de la mise en scène, ou plus précis encore, le travail du metteur en scène. Je crois que ça va être un des enjeux importants des rencontres que nous avons, que nous aurons ici. Ça va être un des enjeux, je crois, aussi de la réception critique, hein, de comment recevoir les spectacles du Festival d'Avignon. Où est la place du metteur en scène de théâtre dans ce festival? Je crois que ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, quand on entend Hubert Collat monte Hamlet, c'est vrai qu'on a envie de dire « Ah, vous faites une mise en scène, vous êtes le metteur en scène d'Hamlet ». Là aussi, phrase qu'on a envie de dire pour simplifier, pour faire une formule, pour identifier. Et d'emblée, là aussi, on se rend compte que c'est pas vrai, quoi. Que déjà, par rapport au monstre, à la monstruosité du texte d'Hamlet, c'est posé pour Hubert Collat et son équipe une question simple, mais incontournable, la question de la traduction. Comment on traduit Hamlet? Quelle langue on propose pour faire entendre ce texte? Alors, aussi repérable et connu qu'il échappe. C'est-à-dire, il est à la fois extrêmement évident, hein, ça fait partie de nos grands mythes fondateurs du théâtre européen, et pourtant, comme Hubert Collat le faisait remarquer très simplement quand il a commencé à travailler, le texte n'est jamais entendu en entier. Premier point qui semble hallucinant, mais qui est pourtant bien réel, c'est-à-dire que bien souvent on le coupe, bien souvent on le trompe, bien souvent on simplifie les choses, et le premier geste d'Hubert Collat, ça a été de le faire entendre en entier. Et dans ce geste, je dirais, artisanal, de le faire entendre en se demandant comment les acteurs peuvent s'en emparer. Donc, en le traduisant avec les acteurs, en opérant une sorte de, pour appeler, tu me corrigeras si tu préciseras, une traduction de plateau. C'est-à-dire une traduction qui part non pas du traducteur dans sa chambre et dans son bureau et ses dictionnaires, mais depuis l'exigence du plateau, dans un va-et-vient entre eux, comment ça peut s'énoncer et comment ça peut respecter l'original anglais. Voilà, il me semble que ça aussi, c'est un point très singulier à nommer si on veut parler du travail d'Hubert Collat. Et puis dire aussi que Hubert Collat n'est pas un metteur en scène, je dirais, du répertoire théâtral, puisqu'il est avant tout un écrivain. Je crois que c'est très important. Et c'est évidemment une des raisons qui lui a fait avoir envie de s'emparer de la langue de Shakespeare et de la faire entendre avec une grande précision en français. C'est qu'il est d'abord un écrivain de théâtre. Et même si vous le voyez ici avec Hamlet, il me paraît important de dire enfin, que ce travail à travers Hamlet n'existe, n'a de sens que parce qu'il y a un univers dramaturgique, un univers, une langue et un univers. C'est vraiment le mot sur lequel nous étions arrêtés avec Georges, qu'on va essayer de préciser. Un univers de théâtre, un univers de la scène. Christian Rizzo, lui aussi, a un univers. Alors, un univers singulier, précis, intime. Et alors, c'est assez drôle parce que ce matin, je parlais avec Jean-Marc Adolphe, qui a été cité, qui animera le débat suivant avec Georges Banu. Jean-Marc Adolphe qui me disait, oui, je viens d'écrire un texte sur Christian Rizzo, qui commence par ces mots. Qu'est-ce qu'un univers, hein? On est devant des formes où, au fond, on n'a pas vraiment les mots, on n'a pas vraiment les repères pour dire ce dont il s'agit en quelques mots. Je crois que c'est peut-être ça une des caractéristiques les plus nettes pour moi pour définir les 40 projets du Festival d'Avignon de cette 59e édition, c'est qu'il n'y a pas de quelques mots clés dont on pourrait dire, voilà, on les a employés, c'est bon, on sait de quoi on parle. Vous voyez bien que ça fait au moins 7 minutes que je suis en train de faire des périphrases pour tourner autour, et je crois vraiment que c'est pas pour le plaisir de faire des phrases, c'est que si je dis par exemple Christian Rizzo chorégraphe, c'est pas suffisant, de la même façon que on ne pouvait pas se satisfaire de Hubert Collat, metteur en scène. Voilà, donc je crois que, pour le dire tout simplement, les frontières bougent, les cases, les catégories, les restent poreuses, même si, vous l'avez vu, le Festival d'Avignon a procédé cette année par pastilles, on pourrait s'interroger sur ces petites pastilles de couleurs, jaune, rouge, vert, bleu, pour dire danse, chorégraphie, vidéo, musique. C'est à la fois, je trouve que c'est un symptôme très net de ceci qu'au fond, les formes bougent, on n'est plus pris dans la catégorie théâtre ou pris dans la catégorie danse. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce petit débat, pas forcément toujours mené de manière bienveillante, mais sur y a-t-il du théâtre aujourd'hui dans la cour d'honneur, y a-t-il du théâtre aujourd'hui à Avignon, quel théâtre, pour quelle forme, pour quel code, quelle grammaire. Voilà, je voulais juste commencer par cette petite, ce petit préambule de...
Voilà, autrement, pour conclure, donc j'aimerais bien citer une petite phrase de Christian Rizzo, parce que nous avons fait un numéro de la revue Alternative Théâtrale où nous avions pensé que la meilleure formule pour désigner l'esprit du festival, c'est de réévaluer la catégorie du risque qui a été très souvent enterrée, occultée. Et je pense qu'au fond, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question entre s'appuyer sur la terre ferme des textes, comme je disais tout à l'heure, ou au contraire s'inscrire dans une dynamique qui est le propre plutôt des auteurs d'univers. Donc Christian Rizzo dit, on lui pose la question, par la prise de risque, que pensez-vous briser, que pensez-vous atteindre? Il dit, je cherche que rien ne soit fixe, que tout soit en mouvement. Je parle d'une capacité à réinventer le monde. Le monde n'est pas, il est inventé au quotidien pour pouvoir le comprendre. Il s'agit donc de briser les habitudes du regard qui sont faites sans choix. Prendre des risques, être en révolte, j'intègre ces deux notions en estimant que le monde n'est pas et qu'il doit s'inventer. Je pense que ce sont deux options très, très nettes et très fortes dont les représentants sont ici. Voilà, je ne sais pas si vous voulez vous définir, ou Jean-François, ou Hubert.
Peut-être si on en est à un parcours un peu général, ce serait intéressant d'avoir
le regard de, d'entendre quelques mots de la part de Jean-François Perrier, qui est donc comédien, hein, il faut le dire, qu'on a pu voir récemment dans le Schweck, le spectacle de Jean-Louis Martinelli aux Amandiers, et qui est, alors je tiens à le lui dire, je trouve, parmi ces assez rares acteurs qui vont absolument tout voir du théâtre. Hein, c'est absolument inouï le nombre de spectacles qu'on va voir dans lesquels on voit Jean-François Perrier. Voilà, donc ça nous paraissait, hormis le fait qu'il a collaboré aux entretiens faits par le Festival d'Avignon pour le dossier de presse, ça nous paraissait important d'avoir son avis parce que il a une sorte de regard de navigation comme ça transversale qui nous paraît précieux et stimulant.
Si vous le dites, oui.
Il faut nous le démontrer maintenant.
Non, c'est vrai que j'ai eu la grande chance de travailler pour le festival et de voir déjà un certain nombre de spectacles que vous n'avez pas encore vus, de rencontrer des metteurs en scène. Alors c'est vrai que ça donne peut-être une vision un petit peu globale. Moi j'ai été très étonné parce que soit j'avais vu, soit je connaissais, soit j'avais travaillé avec un certain nombre déjà de ces metteurs en scène. À l'origine, j'avais l'impression de quelque chose qui était un petit peu un patchwork, comme ça, qui traversait différentes formes de travail. Et en fait, en les interviewant les uns après les autres, c'est vrai, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait véritablement un fil entre tous ces travaux différents. Je pense que, bien entendu, moi je dis ça maintenant parce que j'ai vu, il faut que vous attendiez, pour certains d'entre vous, de voir la plupart des spectacles pour avoir cette idée-là. Ce que je pense, c'est que, je ne veux pas faire une chose très originale, mais que nous sommes dans un monde un peu flottant, un peu difficile, avec beaucoup de contradictions, beaucoup de pertes de repères. Et ce qui m'a beaucoup troublé quand j'ai interviewé tous ces metteurs en scène, c'est que justement ils avaient une très très grande conscience de ça. Ils avaient une très grande conscience du monde qui nous entoure. Et que pour reprendre la formule de Jean-François Perret, ce que j'ai trouvé très 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 beau, c'est qu'il ne faisait pas du spectacle vivant, comme on dit pour nos activités artistiques, mais il faisait du spectacle du vivant. C'est-à-dire vraiment très, très, très présent par rapport à ce qui se passe autour de nous, chacun, bien entendu, avec ses caractéristiques personnelles, son regard très personnel, mais que vraiment, 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 ils étaient inscrits dans le monde qui nous entoure. Ça, je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup troublé, avec des choses qu'on retrouve, des thèmes qu'on retrouve, très étrangement d'ailleurs, chez certains, on pourra développer après. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est que ce sont ceux qui pratiquent sur le plateau qui parlent de leur propre démarche et du travail qu'ils font. Mais c'est vrai que cette chose comme ça, très forte, que j'ai entendue dans leurs paroles et dans les spectacles que j'ai vus après, sur ce désir d'être vraiment présent au monde là qui nous entoure, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, bien entendu. Alors, quand on parle de risque, c'est vrai que c'est un mot qui, moi, me trouble un peu, parce que je pense que, de toute façon, le fait de faire du théâtre a toujours été quelque chose d'un petit peu risqué, parce que c'est comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a plus de risques dans ce festival que dans d'autres festivals, ça, je peux pas vraiment en juger, mais je pense que le risque essentiel, c'est ça, c'est d'avoir une parole personnelle par rapport à un monde dans lequel les certitudes se sont beaucoup effondrées. Et c'est ça qui m'a beaucoup, voilà, qui m'a plu chez ces metteurs en scène, c'est-à-dire de prendre à bras le corps, comme ça, le monde dans lequel ils sont.
Mais peut-être, quand même, ce serait le moment d'en parler. Vous dites, on pourrait en parler plus tard. C'est peut-être le moment de le faire. Ce serait quoi un dénominateur commun, ou en tout cas un fil traversant, comme ça, qui vous serait apparu d'un plateau à l'autre, pas forcément en termes de thématique, mais en termes de posture?
Je ne sais pas, si vous voulez, il y a des choses qui sont absolument évidentes, si vous avez déjà vu certains spectacles. Il y a la présence du corps de l'acteur, très très revendiqué, très présent aussi bien dans le théâtre que dans les formes qui ne sont pas entièrement du théâtre, comme on parlait tout à l'heure de Yann Fabre. Ça, c'est une chose qui, moi, me trouble depuis que j'ai vu les spectacles. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le corps des acteurs, on le montre, on l'expose. C'est un corps qui pense, c'est un corps qui bouge, c'est un corps qui est... semblable au corps, à nos corps, à nous. Je veux dire, il n'y a pas d'image comme ça du corps. C'est vraiment une matière brute avec laquelle on travaille. Mais je pense que c'est en même temps des choses assez entre guillemets qu'on a déjà dit. C'est aussi les mots, l'importance des mots, comment on dit les mots, comment on les fait parvenir aux spectateurs. Je crois qu'il y a un très grand intérêt pour tous les metteurs en scène que j'ai interviewés, de cette volonté qu'ils avaient de faire parvenir aux spectateurs par des moyens différents la force des textes qu'ils montaient, que ce soit les leurs, que ce soit des textes plus classiques. C'est une chose que j'ai vraiment entendue quand j'ai vu les spectacles. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était à moi qu'on parlait. Il y a une formule comme ça qui a été employée, c'est on parle à chacun, mais tous ensemble. Et je trouve que ça, c'est aussi une chose que j'ai retrouvée dans la plupart des spectacles que j'ai vus. C'est-à-dire c'est à moi qu'on s'adresse, à moi individu, à l'intérieur d'une collectivité. Mais vraiment, vraiment, c'est une volonté. Alors bien sûr, je pense que pour les spectateurs, il y a des moments où ce désir arrive aux spectateurs, des moments peut-être où ça arrive moins, parce que c'est une chose très personnelle, c'est un rapport très très direct qu'ils essayent d'établir. Donc est-ce que ça fonctionne tout le temps? Ça, je peux pas le dire. Ça a fonctionné pour moi sur la quasi-totalité des spectacles que j'ai vus. Et puis alors après... Vous avez quand même des thèmes aussi. Moi, j'ai été très troublé par exemple, le thème de Dieu. Le mot Dieu apparaît dans énormément de spectacles. Et donc, après, il se décline un rapport différent. Si vous allez voir Anathème, bien entendu, c'est le thème central. Mais vous le retrouvez aussi dans les textes de Yann Fab. Vous le retrouvez dans énormément de travaux. Varlikovski, quand vous verrez, c'est aussi présent d'une façon complètement différente à travers un rapport mère-fils qui est d'une extrême force grâce en particulier aux acteurs de Varlikovski. Donc il y a comme ça des choses qui se déclinent, mais c'est vrai, je pense que ça serait bien si nos camarades qui pratiquent directement sur le plateau pendant le festival puissent dire eux comment ils voient ça.
Bah, allons-y alors. Qui se jette?
Moi, je poserais là, donc j'aimerais parler avec Hubert, peut-être, parce que selon notre analyse, Hubert fait partie des deux, pas des deux camps, parce que ça, c'est une métaphore militaire, mais c'est de deux territoires, donc un artiste qui a un univers qui a défendu à travers la multiplicité des activités, écrivain, plasticien, et metteur en scène, c'est un mot dont qui n'est pas honteux encore pour l'instant, et de l'autre côté le travail assez épisodique sur des grands textes, Gombrowicz et même voire maintenant Hamlet. Donc comment tu travailles sur cette volonté d'expression subjective qui est l'expression propre aux défenseurs des univers singuliers, et de l'autre côté l'approche des textes qui est une approche assez attentive, traversée par tes préoccupations de plasticien, mais beaucoup moins agressive que dans des mises en scène, certaines mises en scène allemandes, flamandes, où on ressent trop, extrêmement, de manière très violente, la présence subjective du metteur en scène. Donc j'ai l'impression qu'il y a un équilibre instable et très, très risqué par rapport auquel tu te situes et qu'on retrouve dans Hamlet.
Vous avez fait un panorama impressionnant du théâtre qui est présent ici. Difficile de savoir exactement où, pour moi, les choses correspondent par rapport à vos paroles, parce que je ne travaille pas dans une idée de correspondance des formes existantes ou des formes ayant existé. Donc j'ai toujours la sensation que la pratique que nous essayons d'avoir est une pratique de naissance, et effectivement, même si ce n'est pas un de mes textes ou un texte d'un auteur contemporain, avec Shakespeare, nous sommes attelés à la même histoire, c'est-à-dire de voir comment, à un moment donné, peu à peu, cette langue nous arrivait, venait en nous, sans aucune idée préconçue des problèmes, effectivement, que cela pose en termes de mise en scène. Ça ne m'intéressait pas de résoudre des problèmes de mise en scène, ce qui m'intéressait, c'était de voir d'un seul coup... comment cet écrivain qu'on analyse souvent par un nombre de propositions justement freudiennes, lacadiennes, etc. Et un nombre de gens qui ont écrit, et tant mieux d'une certaine façon, mais qui nous plongent finalement dans une plus grande obscurité que l'œuvre ne porte. Et donc il fallait retourner simplement à l'origine. Alors c'est pour parler du travail, je parle forcément d'Hamlet, c'est pas forcément le lieu, mais à un moment donné il s'agissait bien d'écriture, il s'agissait bien de percevoir comment Hamlet... Enfin, pas Hamlet, Shakespeare était vraiment un homme de théâtre avant d'être un écrivain, et que cette œuvre-là est fondamentalement écrite pour la scène, et que tous les méandres de vie qu'on pouvait y sentir, il était nécessaire de passer par une nouvelle traduction, comme le disait Bruno tout à l'heure, ou effectivement une traduction qui se faisait au fur et à mesure des répétitions, de façon à voir et à sentir finalement combien cette langue n'était pas si éloignée de nous, dans ses correspondances, dans sa rythmique, dans des formes finalement de ce conscient assez contemporaine au bout d'un moment, et avec une langue qui n'était pas du tout une langue de personnage, mais vraiment une langue contaminante dans la totalité de l'œuvre, pour tenter d'exprimer ce qui semblait peut-être à son époque, et peut-être qui correspond à aujourd'hui, à ce qui ne se voit plus. Donc finalement, une œuvre où ce qui était obscur était bien peut-être la thématique profonde de l'écriture, et qu'il fallait voir comment, à travers des textes, comment à travers la parole, petit à petit, un champ d'éclaircissement se faisait. Donc, ce champ d'éclaircissement, il était nécessaire de le faire avec les acteurs en répétition. Il était nécessaire de faire des choix de parole en répétition, et de voir comment des mots peut-être plus contemporains, plus proches de nous, plutôt que canaille, on choisissait salaud. Ça me paraissait évident d'avoir des mots qui ont un sens à un moment donné. Mais c'est des choses très bêtes, très simples, mais qui à l'intérieur d'un corps contemporain, ont un sens affirmé, alors que canaille, ça reste vraiment une coquinerie, on va dire, hein, pour moi. Donc on a été obligé de faire ça, voir comment la langue apparaissait, et puis la première chose qui se passait a été de se poser la question comment il était possible de jouer la première scène. Tout simplement. Et on voyait bien que dans les traductions qui étaient faites, la traduction écrivait un texte visible, enfin une parole visible. Et je lisais l'anglais, je lisais les traductions différentes qu'il y avait, et je me disais, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Ils se parlaient, et puis on voyait bien qu'en se parlant, on disait, bah, c'est évident, si je dis Bruno, t'es là. Enfin, c'est évident que Bruno est là, je le vois. Enfin, c'est des choses très simples comme ça, et dans lesquelles on s'est glissé dans la traduction, dans l'écriture, et on s'est simplement rendu compte qu'effectivement, il était impossible de dire ce texte si la pièce était éclairée. Donc il fallait absolument passer dans le noir, et après c'est des choses de va-et-vient avec l'historicité de Shakespeare. Qu'est-ce qui se passe à ces époques-là? Il n'y a pas d'électricité, on est face à des choses très simples et très banales de la naissance du théâtre et des premières visions. Donc on a travaillé en fait sur un démarrage très simple et le plus simple possible, comme on va dans un endroit que l'on connaît, dont on porte une mémoire, mais dont les yeux fermés finalement on ne sait plus du tout où sont les objets. Ça, c'est pour dire une genèse de travail.
Voilà, moi, je voudrais rajouter, pour ceux qui n'ont pas vu encore le spectacle, je suis d'accord, mais je n'ai pas tout à fait d'accord avec ce que dit Hubert. Dans la mesure où je pense que le spectacle... C'est que l'histoire de la traduction, on l'a déjà entendue. Et que tout metteur en scène qui refait aujourd'hui une pièce... refait la traduction. C'est Brooke, il y a 20 ans, qui a commencé ça, donc on a besoin...
C'est pas tout à fait ce qu'a dit Hubert. Il a dit qu'il avait eu besoin de la faire éprouver par les acteurs pour qu'elle soit validée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Enfin, moi, je pense, personnellement, qu'au-delà de ça, l'intérêt particulier de l'œuvre vient de ce travail sur l'obscurité, sur le fait que Hamlet est plus qu'une lecture, est plus qu'une interprétation. Que Hamlet dans ce spectacle est vraiment une interrogation à laquelle nous sommes confrontés sur l'émergence très très douloureuse d'une vérité à travers la nuit. Et que finalement la nuit dans ce spectacle devient pas un univers personnel, pas un univers d'artiste, mais l'univers de l'œuvre. Et je pense que l'originalité de ce spectacle... Bon, il y a des acteurs qui sont bien, on a vu d'autres Hamlet, mais que cette confrontation avec la nuit, la pièce commence par une interrogation, qui est là? Donc, Brooke a repris ça pour son spectacle, donc ça veut dire qu'on ne le voit pas. et tout au long du spectacle, on est confronté, et qu'à un moment donné où la lumière surgit, ça prend un sens symbolique extrêmement, extrêmement fort, extrêmement puissant. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très, très troublé par, par ce travail où la présence du fantôme est une présence, et en même temps, extrêmement puissante, mais pas seulement théâtrale, c'est une présence poétique. Je crois qu'il y a des spectacles que l'on aime beaucoup et que des spectacles qui sont encore plus forts parce qu'on peut les raconter. Et je crois que moi, personnellement, je pourrais raconter à des amis Hamlet, parce que tout le monde, il y a plein de gens qui ne le verront pas. Et le travail qu'il fait sur, au début du spectacle, sur la présence du mort et la dérision, c'est que des larmes suscitées artificiellement en faisant référence à ce que dit Hamlet sur la manipulation des larmes par l'acteur, nous sommes en pleine histoire de larmes, sur le fait que une des plus belles scènes du spectacle, c'est, à mon avis, donc ce que j'ai vu, c'est la dissociation entre le corps et la voix du fantôme. Le fantôme n'est pas repérable, n'est pas identifiable. Donc, je peux parler beaucoup de ça, je suis pas inépuisable, mais presque. Et donc, je crois qu'il y a un spectacle qui fascine par la force du noir. Par la, Edgar Allan Poe disait, il y a des gens qui aiment la nuit pour la nuit. Et je pense que Hamlet est voué à la nuit et que le spectacle parle de parle profondément de ça. Donc c'est pour ça que je trouve, je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est dans une certaine sens, c'est plus qu'une mise en scène, c'est l'irrigation de l'œuvre shakespearienne par cet univers qui surgit de l'œuvre, qui vient de l'œuvre. Mais je crois que cette homogénéité du noir est pour moi la révélation de cette œuvre qui est entièrement placée, bien entendu, sous le signe du spectral.
Oui, peut-être ajouter un... Vas-y, Ben. Vas-y.
Juste une chose par rapport à... Parce que par rapport à l'obscurité ou à la nuit qui existe effectivement dans cette écriture et qu'on a du coup inscrit dans la dramaturgie générale, elle arrive aussi pour une chose précise de mon point de vue, et peut-être c'est mon histoire de metteur en scène ou l'histoire que nous faisons avec les acteurs, mais pour dire combien à un moment donné, en tous les cas c'est comme ça qu'on l'a entendu, combien il y avait une perte du pouvoir de la langue, comme combien dans ce texte-là, il nous racontait aussi que les gens parlaient et qu'on ne savait plus ce que l'on entendait, ou alors que l'on prenait au pied de la lettre ce qu'on entendait, et que du coup on partait dans une histoire qui n'avait plus rien à voir avec la réalité. Et donc ça, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est la partie Claudius de l'œuvre, donc du roi qui a tué le père d'Hamlet. Et puis, magistralement, il nous amène, comme vous le dites, dans le spectaculaire, donc du théâtre dans le théâtre. Et qu'est-ce qui arrive, qui a posé des vrais problèmes et qui a posé, je crois, des problèmes à d'autres metteurs en scène, qui est justement le moment du théâtre dans la pièce et en plein milieu de l'œuvre, où on n'est pas simplement à un moment du théâtre, mais on a un moment qui est une pantomime. Et la pantomime dresse et reproduit sous l'œil du roi et donc des spectateurs exactement le meurtre. C'est-à-dire...
Ça, c'est la découverte d'André Gide, là. Hamlet sur Hamlet.
Peut-être, mais je n'aime pas la culture que vous avez.
La grande découverte d'André Gide, parce que d'habitude, mais quand on met en scène Hamlet, on suppose que vous avez lu un livre fondateur d'Hamlet sur Hamlet, Hamlet et Hamlet de Gide, où Gide explique, on entre dans des détails, c'est que dans Hamlet, on joue Gide, c'est le premier qui a l'intuition, qu'on joue la pantomime qui n'a pas d'effet sur Claudius, et lorsqu'on ajoute les mots, le théâtre devient soulève la culpabilité de Claudius. Donc moi je pensais que cet Hamlet s'inspirait directement du texte de Gide.
On va peu importe les références contextuelles universitaires ou autres. Moi ce que je trouve qu'on voit dans le spectacle du Bercola, c'est que le théâtre n'est pas forcément dans la scène des comédiens, mais le théâtre est dans les 5 actes. C'est ça qui est prodigieux, c'est qu'on voit véritablement un groupe d'acteurs qui va poser une question dans la nuit, en effet, dans la nuit, et que cette question-là, au 5e acte, n'est pas résolue. C'est ça que je trouve extrêmement fort. C'est qu'on a vraiment le sentiment que pour qu'elle soit à nouveau frais et réellement posée, il aurait fallu que ça recommence. Et que véritablement, on assiste là à du théâtre. C'est-à-dire que les 5 actes sont un geste théâtral. C'est comme s'il y avait contamination de la scène des comédiens à l'ensemble de Hamlet. Moi, c'est ça que je vois. C'est, et là, là, je trouve qu'il y a en effet invention et une lecture tout à fait lumineuse, quoi. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien, là, au fond?
Non, on ne peut pas faire plus.
Parce que j'ai l'impression qu'on crie un peu, mais...
Voilà, donc il faut tenir bon, là.
Ouais, il faut tenir le micro Jean-François, au plus près. Alors, Jean-François, le... Sivadier, le théâtre dans le théâtre, la mise en route du théâtre, la naissance, comme disait Hubert Collat, du théâtre, ça résonne avec des préoccupations qui te sont proches, qui sont proches à ton...
Ouais, effectivement, dans ce qu'a dit Hubert, il y a un terme qui me plaît énormément, c'est le mot naissance. Je pense que au théâtre, c'est le seul endroit où on peut interroger collectivement, de manière intelligente et jouissive, la naissance dans le temps présent de la pensée et la naissance de la parole. Après, je voudrais revenir sur la notion de troupe, parce que moi, il y a un terme qui me fait froid dans le dos à chaque fois, c'est le mot très tôt. Je parle pour mes spectacles. Dans La Mort de Danton et dans La Vie de Galilée, effectivement, il y a des très tôt. Je ne sais pas ce que c'est qu'un théâtre de très tôt et je ne sais pas ce que c'est qu'une troupe. Pour moi, ce qui est important dans la troupe, c'est la pensée collective. Enfin, le fait que tout le monde soit embarqué dans une même pensée. En dehors de ça, s'il n'y a pas ça, la troupe, ça sert à rien. Quand j'ai vu le dernier spectacle d'Hubert que j'ai vu, je crois que c'était Gombrowicz, il y a un paquet de temps, le mariage. Moi, je voyais une troupe sur le plateau. Je ne sais pas s'il a pensé en termes de troupe, mais je voyais une pensée collective. Enfin, une pensée qui s'élaborait, qui était où la scénographie était indissociable de la mise en scène des acteurs, etc. Voilà, ça me plaît bien. Voilà. Et je pense qu'il y a que en faisant ça qu'on peut justement réinterroger la naissance de la parole, la naissance du théâtre. Enfin, des mots un peu pompeux comme ça, mais deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut essayer de pas faire des cases en disant que, par exemple, Hubert est un auteur mais aussi un metteur en scène. Je pense que l'auteur et le metteur en scène, c'est la même chose. Je pense que je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais qu'il écrit comme il met en scène et qu'il met en scène comme il écrit, que tout ça, c'est un même geste. Il est tout simplement un artiste. Enfin, voilà. Je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'on soit toujours dans un même mouvement de pensée, que quand on monte un texte, c'est pas qu'on a envie de dire quelque chose sur ce texte, c'est que ce texte nous met au pied du mur de questions qu'on se pose nous-mêmes sur notre rapport au théâtre, donc sur notre rapport au monde, et que quand on monte un texte, je veux dire, moi j'ai rien à dire sur La Mort de Danton, par contre je pense que ce texte me pose des questions sur mon rapport au théâtre et donc mon rapport au monde, et donc c'est peut-être le meilleur texte que j'ai à monter maintenant. Voilà, mais tout ça répond à des histoires de nécessité. Voilà.
Il y a une très belle phrase à propos, une très belle phrase de Copeau qui disait: il faut pas se poser la question qu'est-ce que vous faites avec le texte, mais il faut s'interroger qu'est-ce que le texte fait de vous. Et je crois que c'est vraiment une très très belle phrase, c'est-à-dire que ça témoigne au fond de cette double relation entre celui qui approche un texte et, pour l'éclaircir, pour le traiter, mais en même temps, de l'autre côté, on ne sort pas indemne de la rencontre avec Büchner et Galilée. Donc qu'est-ce que ce texte en fait de vous?
Alors, pour terminer à répondre à la question précédente, je pense aussi, parce qu'il y avait comme ça l'idée dans le débat de ce que ça peut être la poésie, enfin sur un plateau, c'est un terme un peu compliqué, pour reparler de la naissance de la parole, moi il me semble que, moi ce qui me touche sur un plateau, c'est quand on arrive à créer avec le spectateur et les acteurs un état, entre guillemets, d'enfance de la pensée, c'est-à-dire de... quelque chose qui a rapport avec le non-savoir. Effectivement, avoir travaillé sur une pièce et s'avancer devant les spectateurs en disant « je vais essayer de faire semblant de ne pas en savoir plus que vous » au moment où la représentation démarre, ça a un peu rapport avec ça. Je pense que, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau entre le public qui attend quelque chose en regardant un plateau et un acteur qui prétend réinventer cette chose ou ne pas savoir, n'avoir rien à vendre. Voilà. Bon. Voilà. Ce que m'ont apporté Brecht et Büchner.
En quoi ils permettent de continuer à écrire ta propre question sur le...
Brecht, la question que m'a posé Brecht, comment le théâtre pouvait être un instrument de jouissance uniquement avec de la pensée. Dans la vie de Galilée, il se passe absolument rien. Il n'y a aucune action. À part l'arrestation de Galilée, il se passe rien. Et Brecht, il construit une machine extrêmement habile, efficace, pas toujours efficace d'ailleurs, un peu casse-gueule, mais dont le fer de lance, enfin le fil conducteur, est la phrase qui fait dire un moment à Galilée, pensez, il est un des plus grands divertissements de l'espèce humaine. Et quand on arrive à déceler dans la pièce comment la science et le théâtre dans la pièce, c'est exactement la même chose, ça devient extrêmement excitant. Le vrai courage qu'on a dû essayer de prendre avec la pièce, c'est d'affirmer le fait qu'il n'y avait pas d'action, d'autre celle que la pensée, et que si on prenait le vertige de la pensée au pied de la lettre, ça pouvait nous emmener très loin. Voilà. Voilà, donc ça c'est, voilà, disons qui m'a amené ça. La difficulté avec la mort de Danton, c'est que c'est au contraire de Brecht qui est un vieux malin que Büchner, lui, ne sait pas écrire du théâtre au moment où il écrit la mort de Danton. Il a 22 ans, il écrit ça en 6 semaines, il est pratiquement au bord d'être arrêté par la police, enfin, et il écrit vite et mal, comme dirait Vitesse, dans le bon sens du terme, cette mort de Danton qui est une espèce de bombe mal foutue, extrêmement compliqué pour les acteurs et pour le metteur en scène, et voilà, et qu'il lance cette chose-là, et que lui, Büchner, avance sans masque dans la pièce. Donc c'est Büchner lui-même tout le temps qui est dans la mort de Danton. Avant d'être Danton, Robespierre, les grandes figures de la Révolution française, c'est surtout un jeune homme de 22 ans qui s'essaye à faire de l'art et de la Révolution. C'est ça qu'on voit. Donc ce qui nous a appris, c'est comment on arrive à faire du théâtre dans une pièce qui a l'air d'être pleine d'enjeux, qui a l'air d'être une grande pièce historique, et qui en réalité n'est ni une grande pièce historique, ni une pièce où il y a des enjeux, mais qui est une pièce où il y a quelqu'un qui se cherche, qui est l'auteur lui-même. Donc voilà, la difficulté, elle est là, elle est monstrueuse, elle est très excitante. Voilà. Donc,
merci. Mais donc peut-être, Christian Risseau, donc si vous ne travaillez pas ni sur Danton ni sur Büchner, donc vous partez de quoi ?
De titre.
Je crois d'une chose assez simple, c'est le. Chaque jour, j'essaye d'être dans ce monde. C'est très compliqué pour moi, comme pour beaucoup de gens. Et à un moment donné, j'ai besoin de me mettre dans un espace, essayer de construire un filtre avec les moyens du théâtre, on va dire, pour essayer de re-regarder ce monde et le trouver peut-être supportable. Donc ça passe par... Ça passe par tout ce qui, pour moi, fait théâtre. C'est d'abord de la mise en espace, de la lumière, du son, des corps. Et voilà, on tente de construire avec... et j'espère, je dis toujours ça, mais sans hiérarchie, en fait, avec tous ces éléments, un objet qui, je sais pas, qui me permet de, voilà, de respirer, de survivre. Donc, sachant que tous ces objets sont faits entre ce regard que je peux avoir sur le monde et ce regard qui est nourri de ce que j'appelle mes fantômes, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une certaine capacité à regarder aussi. C'est-à-dire de quoi je suis construit, de lecture, d'art, d'amour, de désir, de haine, de sexualité. Donc voilà, pour moi, c'est la nécessité de travailler à un moment est une nécessité qui est très temporelle. C'est que telle pièce, je viens de faire donc cette nouvelle pièce qui sera présentée ici, je peux dire c'est ma pièce de mai 2005, c'est-à-dire c'est une croix dans mon calendrier en disant voilà à ce jour ce dont j'ai besoin pour regarder le monde. Ensuite c'est comment ça se passe, j'essaie toujours d'être avec et avec une équipe. Voilà, d'essayer de constituer un matériel qui se révèle par des pratiques qui sont plus presque pour moi des pratiques spatiales en fait, de mise en relation de corps, d'objets, de l'enjeu de l'architecture et surtout particulièrement sur les derniers projets sur la musique, puisqu'il y a une présence musicale qui est très forte live de musiciens. Donc je sais pas, j'essaye de respirer en fait.
Vous êtes un peu comme Jean-François Civadier qui parle de questions. L'œuvre extérieure nourrit ma propre question. Vous êtes en train de nous dire que votre questionnement avance avec le temps et il y a des choses qui viennent le nourrir. Si on creuse un peu cette chose-là qui nourrit la question à intenter, il y a deux choses moi qui me frappent. C'est le fait que vous dites que vous partez dans vos pièces du titre, donc de mots. Hein, c'est bien des mots, les mots qui forment un titre. Alors ici, il y a pas mal de mots dans la pièce qui va être présentée à Avignon, puisque elle s'appelle « Soit le puits était profond, soit il tombait très lentement, car ils eurent le temps de regarder tout autour. » Donc c'est évidemment un titre qu'il faut mieux l'avoir sous les yeux, hein, pour le dire. Donc c'est une phrase de Lewis Carroll. Et vous dites que, partant de ce titre, après, vous ne partez que de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pour le coup pas de référencement, il n'y a pas une architecture dramaturgique très solide autour, ou bien si. Et puis l'autre élément que je voulais vous soumettre à la discussion, c'est, vous ne parlez ni d'acteur ni d'interprète, mais action, construction, deux points, et là, le nom des gens qui seront sur le plateau. Ça m'intéresse beaucoup cette notion action, construction. L'idée que c'est pas des acteurs qui font un travail sur un plateau, c'est pas des interprètes qui interprètent la pièce d'un chorégraphe, c'est une action qui est construite par un certain nombre d'êtres dans un espace, quoi, si on veut.
Alors, pour le titre, je travaille très souvent comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui aime beaucoup lire, et très souvent il y a une phrase, j'aime beaucoup l'enjeu de la phrase, voilà, une phrase est constituée, avec un sujet, un verbe, voilà, et cette phrase me reste dans la tête, donc par exemple, ça ne fait absolument pas référence à Lewis Carroll, ça vient de Alice au Pays des Merveilles, mais il y avait dans cette phrase un enjeu qui m'a troublé. Quand je l'ai lu, il y avait cet enjeu de la chute. Une chute, c'est toujours... quelqu'un chute, c'est rapide, c'est quelque chose, je sais pas, se retire d'un coup. Et j'aimais beaucoup dans ce titre cette notion de chute et en même temps de temps très long. Et avec, à partir de ce moment de chute, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je me souviens avoir... comme certains ont eu des accidents de voiture, par exemple, ce moment où, d'un coup, on ne sait pas du tout, on n'est que dans la chute, on n'est pas dans... on va tomber, c'est ce moment-là qui est suspendu. Et quand j'ai lu cette phrase, ça s'est écrit comme ça, comme un... là, derrière, et j'ai eu envie de travailler. Après, je pars complètement ailleurs, mais il y a toujours ce titre qui clignote un peu comme en néon, et qui se révèle petit à petit... Pourquoi j'ai choisi ce titre, en fait? Je me suis aperçu qu'à chaque fois que je travaillais, je laissais émerger, je parle beaucoup de révélation, mais comme révélation photographique, en fait. C'est-à-dire que j'avais fait un cliché, qui était ce titre. Après, tout le temps du travail, c'est la chambre rouge, pour que la pièce se révèle. Voilà, quel cliché j'ai fait quand j'ai choisi ce titre, voilà. Donc il y a cette chose-là qui reste. C'est en effet des mots, mais après, c'est pour moi, c'est des mots qui me permettent de les oublier, de rêver dessus, voilà. Et souvent, c'est des notions aussi, c'est-à-dire que c'est des notions de temps, c'est des notions d'espace, c'est une notion de point de vue qu'il y a souvent dans les titres dans ces phrases que je choisis qui m'intéressent, c'est souvent ça, c'est-à-dire voilà, un espace, une temporalité et un point de vue, deux regards. Parce que pour moi, c'est, j'entendais parler beaucoup de la parole. Je crois que je suis quelqu'un qui essaye de travailler sur le regard. J'ai une grande peur d'abord de ne plus voir, et notamment de plus voir par la production d'images. C'est-à-dire, c'est ne plus voir parce qu'il y a rien, mais qui commencerait à avoir du néant parce qu'il y a une surproduction aujourd'hui d'images, et notamment d'images qui mettent en jeu un corps qui disparaît constamment, ce qui est mon angoisse absolue. Donc, c'est comment on a un temps et on essaye de construire ensemble un espace pour être ensemble, mais ensemble sur le plateau, mais ensemble avec les gens qui assistent à cette construction-là. Donc c'est pour ça que je les appelle constructeurs, parce que je vois pas d'autres mots, en fait. Ils font des actes, des choses très très fonctionnelles aussi, mais j'ai besoin de passer par une... Je pense que c'est aussi parce que je viens de la danse, ou je suis dans la danse, ou je sais pas trop quoi avec la danse, en tout cas dans le mouvement, et que j'ai besoin, pour avoir accès à un corps qui serait peut-être un corps imaginaire, j'ai besoin de passer d'abord par un corps qui est très très fonctionnel, c'est-à-dire qui se met déjà en mouvement parce qu'il y a des choses fonctionnelles à faire. Déplacer une table, serrer une main, dire bonjour, nettoyer le sol. Et déjà, pour moi, le corps est déjà pris dans un mouvement qui, pour moi, commence à ouvrir en fait des portes imaginaires que j'essaye de relire et de...
Alors, peut-être donc avant que vous posiez des questions par rapport à ce qui a été dit, Jean-François. Allez-y.
Oui, parce que moi j'ai un peu l'esprit d'escalier, donc c'était pour répondre à une question qui a été, on me demandait ma vision des choses, si vous voulez, moi, et surtout un espèce de fil rouge à l'intérieur de ce programme du festival. C'est vrai que quand vous avez, je sais pas combien j'ai interviewé, je crois 17 ou 18 metteurs en scène, il y a une chose qui m'a beaucoup, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, que pour eux, il y avait quelque part, dit de façon différente, mais cette idée de l'impérieuse nécessité de faire ce qu'ils étaient en train de faire. L'impérieuse nécessité, ça m'avait beaucoup troublé, parce que c'est dans une lettre du peintre Vincent Van Gogh à son frère. Son frère lui dit, mais pour toi qui dessines si bien, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de faire des portraits? Il y a des tas de gens qui m'ont dit, oh, on aimerait bien que votre frère fasse mon portrait. Et ça. Et Van Gogh répondait, j'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Je ne peux faire que ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas satisfaire à la demande de quelqu'un comme ça. Je ne sais pas faire, ça sera mauvais, ça sera pas bien. Je ne peux peindre que ce que je suis en train de peindre. Donc ils ont cette impérieuse nécessité. C'est aussi des gens qui, quand on parlait du risque tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que c'était des gens qui n'essayaient pas de se rassurer en faisant le travail qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la même position que je pense la plupart des spectateurs, dans ce que je disais tout à l'heure, dans le monde où on est, c'est-à-dire ce n'est pas un théâtre rassurant. Et c'est aussi, je pense, pour eux, dans certains cas, de se poser des questions par rapport à eux, et comme ce sont des êtres humains aussi, comme la plupart d'entre nous. Donc il y a cette idée de quelque chose, nous sommes dans une période qui nécessite des questionnements, qui nécessite, nous n'avons plus la certitude, on parle beaucoup de la mort des idéologies, de la mort de l'histoire, de la mort de ceci, de la mort de cela, on est vraiment cerné par ça. Et eux, ils disent le théâtre est vivant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé quand je les ai entendus. Personne ne m'a dit je fais ça parce que je veux dire que peut-être... Non, c'est un théâtre vivant, c'est un théâtre qui se fait de façon différente. Certains utilisent des moyens qui sont des moyens plus contemporains, en tous les cas, je pense à Jean-François Perret et à la vidéo, mais toujours, toujours, toujours dans l'idée que c'est au service du théâtre. C'est-à-dire qu'ils ont cette idée de la nécessité aussi du théâtre, comme un moyen de... Oui, de participer au monde qui les entoure et d'échanger beaucoup aussi cette idée d'échanger avec les spectateurs et de confronter des expériences. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup troublé. Et je voulais le dire parce que c'est dans une période comme ça où tout est un petit peu flottant, il y a au moins cette idée que le théâtre doit être vivant. Alors, c'est vrai aussi quand on dit, oui, mais il n'y a plus de théâtre à Avignon et tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire que le théâtre? Qu'est-ce que le théâtre a été? Georges Banu est bien sûr sans doute plus apte que moi à faire cette histoire, Mais je veux dire, on sait qu'il y a eu des batailles dans le théâtre. Le théâtre n'a vécu et ne vit que parce qu'il se confronte au monde qui l'entoure et qu'il, par moment, connaît aussi ces périodes d'instabilité. On parlait de, tu parlais, Jean-François, tout à l'heure de Büchner. Büchner était vraiment dans cette impérieuse nécessité d'écrire ce texte parce que aussi il se confrontait à un théâtre, entre guillemets, du passé, de son passé très proche. Il disait, on est dans un monde où on ne peut plus écrire le théâtre comme l'ont écrit, même s'ils l'ont très bien écrit. Mais simplement, on ne peut plus l'écrire comme ça. Moi, en tous les cas, à mon âge, à l'endroit où je suis, je ne peux pas l'écrire comme on l'écrivait avant. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est une idée aussi de savoir. Est-ce que le théâtre patrimonial, c'est-à-dire de cette espèce de chose qui nous vient de très loin, est-ce qu'il y a encore une nécessité aujourd'hui de le présenter? Et si on le présente, comment on le présente? C'est aussi toutes ces questions-là que le théâtre met en jeu. Et ça rejoint véritablement, pas seulement, beaucoup d'autres choses dans la vie qui nous entoure. Mais je veux dire, vraiment, cette espèce de... Moi, je suis rentré de ces interviews, de ces voyages à travers l'Europe et de ces rencontres, extrêmement fortifié dans l'idée que, alors vraiment, le théâtre était encore vivant, et qu'il y avait des gens qui étaient là et qui, chacun à leur façon. Alors après, bien sûr, ça c'est la question du théâtre éternel. Comment est-ce que ce que le metteur en scène ou l'auteur a envie de dire, est-ce que ça atteint pas, là, alors après, je pense qu'il y a autant de public qu'il y a d'individus, donc voilà, c'est une autre question.
Nadia von der Heyden voulait intervenir. Nadia von der Heyden, donc qui travaille avec Jean-François Civadier, à la fois comédienne et, comment appeler ça, collaboratrice.
La difficulté est témoin du processus de production.
Oui, je voulais revenir moi sur cette histoire de séparation entre un théâtre qui serait un théâtre de texte et un autre qui serait un théâtre dont on ne sait même pas quoi, parce qu'on ne sait même pas comment le nommer, est-ce que c'est de l'installation, est-ce que c'est de l'art plastique, est-ce que c'est de la danse, est-ce que c'est... On s'embrouille. C'est-à-dire qu'au lieu de profiter, je trouve, d'une chance qu'on a aujourd'hui absolument incroyable pour s'ouvrir et arrêter avec les fonctionnalisations des choses et des corps en permanence, peut-être ce qui relie tout le monde en ce moment, et peut-être parce que le monde en ce moment fabrique particulièrement d'identification hystérique et de la fonctionnalisation permanente, peut-être qu'on a effectivement l'envie de redonner aux gens, de se redonner l'idée que le corps n'est pas assignable à quelque chose, que la vie est beaucoup plus complexe que ça, et que la chance qu'on a de faire les choses ensemble devrait encore être suffisante et nécessaire. Du coup, et je crois qu'après, dans un geste de l'art, et c'est quand même une chose qu'on a entendue pendant très longtemps, et là c'est en train de se faire, peu importe le support qu'on utilise, à travers quoi on a besoin, à travers quel geste on a besoin de passer, est-ce que c'est prendre une photo ou hurler une phrase dehors? Peu importe. Écrire un texte n'est jamais que reproduire un geste qui est celui d'écrire une danse ou d'écrire ou une image. Et en général, on le fait pour transpercer l'image, pour pas en rester à l'image. On a maintenant à notre disposition, et parce que dans la tête des choses se sont ouvertes, parce qu'on provient d'une histoire de l'art aussi, qui a ouvert ses portes. On ne s'est pas demandé pourquoi des danseurs parlaient. Comme si, bien entendu, à jamais un danseur devrait se taire. Je veux dire, on ne se demande pas pourquoi un plasticien écrit un mot. On a besoin de continuer à ouvrir ça. Et pour un acteur, je crois que de réinventer chaque fois et chaque jour un geste, ou de réinventer, ou de rééprouver comment un mot nous traverse, ou un geste, c'est la même chose. C'est pas le même outil. Et des fois, on n'a pas besoin au même moment des mêmes outils. Et je pense que ce truc de création qui est de dire à un moment X, je sais que je démarre un processus qui va se poursuivre jusqu'à un autre moment qui est la rencontre avec des gens qui vont venir rencontrer. Ça, c'est effectivement l'histoire d'un... C'est des histoires de temps et d'espace. Alors après, de quel espace on a besoin, de quel support et de quel outil, je pense en plus que ça peut changer. Je pense que quand Jean-François ou Hubert écrivent, c'est le même processus qui se met en route que quand ils montent un texte qui n'est pas d'eux, même si on est large, quoi. Voilà, on est plus grand que ça.
Nous, on a des questions, mais si peut-être vous avez des questions, on est à votre disposition.
Oui, question là.
Une question à Monsieur Sivadier. Dans votre spectacle, vous avez une nouvelle confrontation des acteurs avec le public. C'est juste cette impression?
Une confrontation?
Oui. C'est le public, c'est auquel les acteurs parlent. Ils ne parlent pas aux autres acteurs, ils parlent surtout sur le public. C'est ça?
Oui. Oui. C'est une question.
Vous pourriez l'expliquer un peu, les raisons?
Il y a plusieurs raisons. Il y a une façon de, là-dedans, dans cet acte-là, donc de parler énormément au public, qui est un outil un peu naïf et qui n'est pas une recette du tout, une façon de mettre le public dans la complicité de la construction du spectacle hein, au présent. Alors on peut le faire autrement. On dit toujours qu'il y a un échange hein, au théâtre entre la scène et la salle, et moi j'essaie de mettre cet échange en scène, enfin d'en faire vraiment un objet de un moteur de la représentation. Et puis j'aime bien quand je suis spectateur avoir l'impression assez ambigu que moi, spectateur, et les gens qui sont sur le plateau, que ce soit des danseurs ou des chanteurs d'opéra ou des acteurs, qui sont en train, en même temps que moi, d'interroger l'œuvre et de me dire, je ne sais pas ce que j'ai à dire, je ne sais pas ce que j'ai à faire, mais je sais que je viens poser une question et que les spectateurs et que les gens qui sont sur le plateau sont tous les deux en train de regarder dans une même direction qui est l'œuvre. Alors ça paraît un peu tordu comme ça, mais quand je sens ça, quand je suis spectateur, je suis extrêmement heureux parce que j'ai l'impression d'être avec les gens sur le plateau et pas en face d'eux. Et c'est pas du tout, et ça n'a rien à voir. Donc c'est une façon, le rapport au public est une façon de travailler sur cette chose-là. Mais ce dont je parle, cette impression de pouvoir avoir l'impression d'être avec les gens sur le plateau, n'est pas liée au rapport au public. J'ai eu cette impression-là quand je suis allé voir des spectacles de Claude Régis, des fois, j'avais l'impression d'être en train d'interroger l'œuvre et d'être avec les acteurs sur le plateau, alors qu'il n'y avait pas spécialement de rapport au public. Voilà, c'est un peu...
Pour ceux qui n'ont pas vu Hamlet, peut-être que c'est un élément assez intéressant dans la même direction, le fait que le dispositif choisi fait qu'on a donc un dispositif de jeu qui est le plateau avec comment on peut appeler la toile
la toile.
Une sorte de toile, mais autour de l'espace de jeu, vous allez voir deux grandes tables avec des chaises où les acteurs peuvent s'asseoir, les acteurs personnages. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Les acteurs personnages quittent en quelque sorte la fable. Ils sont là, mais nous, en tant que spectateurs, on ne peut pas s'interdire de revoir en eux des personnages, et en même temps sur les tables on voit les outils de la représentation, c'est que le crâne, le masque d'escrime pour le duel. Donc on a la mise en scène met en évidence le processus de production du spectacle de manière très belle, parce que c'est un peu discret, c'est pas très flagrant, mais en même temps, peut-être la question que je pose, en même temps, ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas seulement ça, il y a dans le spectacle une volonté de faire sens avec ça. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, à la table, progressivement, les personnages disparaissent et le seul personnage qui reste, c'est le vieil acteur qui incarne le fantôme. Donc, d'une certaine manière, justement, le Hamlet, moi, ça me semble très passionnant parce que on travaille sur le glissement texte-image, sur le glissement processus de production et en même temps dramaturgie qui fait sens, parce que quand tous les acteurs, tous les personnages sont partis dans les coulisses et il ne reste que le fantôme, on comprend explicitement que toute la pièce est placée sous le signe du fantôme. Donc ça c'était une remarque. Notre question, c'était une question par rapport à ce que disait Christian Rizzo. Je pense que quand on crée ces univers quand même, je ne crois pas que ça soit exactement la même chose. Je m'excuse, mais je ne crois pas que ce soit la même chose, partir de quelque chose qui préexiste et inventer un autre univers. Donc, lui, il dit, on est complètement sans hiérarchie. Donc, les éléments, en quelque sorte comme un poète, qui ne hiérarchisent pas les mots, les métaphores, etc. Par contre, quand on travaille sur un texte, on travaille sur une hiérarchie qu'on peut accepter, qu'on ne peut pas accepter. Donc peut-être on pourrait parler de cette spécificité, parce que moi, dans Hamlet, il me semble que le spectacle joue sur une sorte de double hiérarchie, c'est-à-dire que le texte et l'image sont également présents. C'est qu'on ne privilégie pas le texte au dépend de l'image, mais l'image ne l'emporte pas non plus sur le texte. Est-ce que c'était un souci ton travail, donc ce refus d'accorder la priorité au texte, au moins c'est l'impression que j'ai eue, ou à l'image, et que c'est cet équilibre instable entre texte et image qu'on ne pratique pas forcément dans ces univers singuliers dont vous parliez tout à l'heure, où au contraire l'intérêt vient du fait que tout a une valeur égale successivement, c'est que chaque élément devient prioritaire pour laisser la place à un élément, à une autre intervention successive. Donc voilà la question que je voulais te poser, si elle n'est pas trop dans la discuter, mais...
Elle contient beaucoup de ses réponses, et elle rejoint, en termes de ce mouvement entre image ou écriture, elle rejoint ce que nous disions tout à l'heure, qui est la problématique d'entendre ou de voir ou d'être vu, hein, sur des codifications de représentation, mais des codifications d'être. À un moment donné, on a eu un besoin dans le travail dramaturgique de déposer un certain nombre d'objets qui ont concouru à la naissance des scènes, à la naissance du travail de l'acteur, peut-être plus utilisés en cours du spectacle, et en même temps, c'était pas simplement ça. On avait, de toute évidence, comme vous le disiez, affaire à une œuvre monstrueuse en termes de souvenirs, en termes de mémoire, en termes de fantômes, justement, et que à l'intérieur de ça, il était fondamental pour nous de laisser dans l'espace, sans mettre un phare dessus, mais une présence, comme ça, visible ou invisible. Donc on ne cesse de passer de l'apparition à la disparition. Apparition extrêmement présente de l'écriture, disparition, je dirais, du sens de l'écriture, puisqu'à un moment donné, ce sens-là de l'écriture ne fait plus corps avec la destinée de ces figures-là. Donc plus corps avec la destinée du monde. Donc à un moment donné, on a tenté de réunir ça à travers... la même conscience que peut-être Shakespeare le faisait dans la notion de ce que vous disiez tout à l'heure, de la troupe. Je ne sais pas si j'ai une troupe, mais on se fédère en troupe, c'est évident, que la pièce était écrite pour une troupe, que ça faisait partie vraiment totalement de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a des particularités d'écriture qui sont pour un acteur précis qui n'est plus là, mais qui a suggéré la naissance de l'écriture. Donc on avait besoin de glisser en permanence là-dessus, sur ces formes-là. Il faut dire aussi que la genèse du travail d'Hamlet, elle a été, bien évidemment, comme l'a cité Jean-François, sur le spectacle que nous avions fait il y a 5 ou 6 ans, qui était Mariage de Gombrowicz. Et donc là aussi, des corps en renaissance, des corps qui sortent d'on ne sait où, des figures de leur présentation qui sortent d'on ne sait où. Et puis, donc, ce qui était important pour nous dans les figures des acteurs qui restaient là, c'était que dans leur costume,
à un moment donné, leur costume présentait une forme, on va dire, qui était celle peut-être de ce qu'écrit ou décrit Gombrowicz dans la représentation des formes humaines, où quand on endosse un rôle, on se présente en tant que rôle, on nous parle en tant que rôle, ça n'a plus forcément à voir avec la réalité. Et les acteurs présents autour de l'espace scénique ont cette puissance-là d'être finalement dans une carcasse de forme, alors qu'on pourrait dire que leur être, leur état d'être est totalement ailleurs, voire en mouvement, comme dans un mouvement invisible sur le plateau, puisque on le suggère aussi par tout un travail fait sur la vidéo par Patrick Lafont qui suggère en permanence l'idée d'être hanté par autre chose.
Oui, il y a une question là-bas.
Bonjour, c'est une question, même pas vraiment une question à vrai dire, pour Jean-François Sibadier. Donc j'ai vu Galilée et La mort de Dantan ensemble dans la même nuit, et c'était vraiment quelque chose d'incandescent, d'intelligence, et c'était vraiment absolument génial. Et puis ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que d'abord la raison que vous avez donnée pourquoi ces deux ensembles, parce que c'est les deux seuls textes où vous avez envie de réfléchir sur chaque phrase, je trouvais vraiment une grande évidence. Et puis il y avait une espèce d'expérience, comme dans un laboratoire, je trouve, à mener sur l'intelligence de ces textes. C'est, il y avait toujours ces moments de transition entre improvisation, des extemporés, et puis à un moment donné, on était dans le texte. Et on se rendait pas compte à partir de quel moment on était déjà dans le texte de la pièce. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Et je dois dire, de cette façon-là, de cette façon pétillante comme ça, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Et puis, ça rejoint maintenant cette intelligence et cette actualité qui est dans ces textes. Et c'est pas parce qu'il faut tirer cette actualité par les cheveux, parce qu'elle est vraiment là. À la fin de La mort de Dantan, comment vous avez résolu, c'est toujours un des problèmes, comment on fait la scène de la décapitation, quoi. Et puis, et là, cette scène de pétrification, que ce sont des statues et en bas, tous ces statues qui représentent finalement un présent passé, et c'est ça la mort. Donc c'est finalement beaucoup plus cruel, cette mort d'une vergangene Zukunft. C'était un futur passé, en fait. Voilà, donc c'est pas vraiment une question, juste est-ce que ça vous parle de ce que je vous ai dit. Voilà.
C'est une remarque intéressante parce qu'elle permet de montrer une sorte de communication souterraine avec ce qu'évoquait Hubert Collat sur les carcasses de personnages, quoi. Le fait qu'il y a de la carcasse et puis qu'à un moment donné, cette carcasse peut prendre vie et peut se vider de sa vie. Enfin, il y a un va-et-vient comme ça entre la forme morte et sa vitalisation possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, juste, c'est une des difficultés de La mort de Dantan, c'est de lutter contre la pièce historique. Hein. Donc, l'idée de la fin, c'est partie du fait qu'on voulait justement qu'ils rentrent dans l'histoire. À ce moment-là, c'était pas leur mort, c'était leur entrée dans la grande histoire. Contre quoi Büchner lutte pendant toute la pièce. Il oppose un théâtre du présent à un théâtre idéaliste qui serait le théâtre de ses aînés, de Schiller, etc. Et voilà. Enfin...
Oui, il y a une, je crois, Georges Bannu me contredira si ce n'est pas le cas, Bertolt Brecht disait, je crois, qu'il faut pouvoir rentrer dans les morts comme dans des moulins. Eh bien, je trouve que dans tous les morts qui sont dans la mort de Dantan, c'est ce travail-là que vous avez fait. Je trouve ça vraiment très beau.
Il y a une chose très importante avec Büchner, c'est qu'on voit vraiment du théâtre du présent. C'est-à-dire que ça montre vraiment comment un écrivain écrit du théâtre, et il écrit pas selon des idées, il écrit avec ce qu'il est tous les jours, organiquement, intellectuellement, etc. À certains moments, dans La mort de Dantan, Büchner, il écrit des lettres, il prend des discours de Robespierre historiques, il écrit, il prend des extraits de ses lettres qu'il écrit à sa fiancée, il prend des extraits de la Bible, de Shakespeare, et il écrit avec ce qu'il est tous les jours, de ses journaux, etc. Et c'est pour ça que c'est une matière vivante. Alors, la tentation est forte de prendre des années après La mort de Dantan comme un monument intouchable et de se dire, oh là là, attention, c'est un chef-d'œuvre. Faut faire très attention, c'est quand même Dantan et Robespierre, c'est pas n'importe qui. Tout ça, c'est faux. C'est d'abord un jeune homme de 22 ans qui écrit
son rêve, son utopie de la Révolution, avec toutes ses maladresses et sa richesse extraordinaire, mais c'est surtout du théâtre vivant. Enfin, voilà, ça c'est... Et un auteur, ça écrit comme ça. Ça n'écrit pas, voilà, ça n'écrit pas des choses intouchables. Ça n'écrit que des appels avec de l'air, des mots avec de l'air, des mots.
Mais peut-être on peut conclure si tu veux, si tu as quelque chose à dire, Bruno. Nadia
voulait dire un petit mot, mais bon.
C'est juste préciser que tout à l'heure, je voulais pas dire que c'était la même chose. Je disais simplement qu'on a tendance à opposer les deux et que je trouvais ça dommage parce qu'il y a une chose beaucoup plus joyeuse et riche qui est en train de se passer. C'est juste là. Théâtre de texte, théâtre pas de texte. C'est juste là.
Oui, je pense qu'on ne va pas entrer dans une question de vocabulaire parce que moi, je proposais pas qu'on les oppose, mais qu'on les différencie. Je continue à croire qu'il y a une différence. Donc, différence ne veut pas dire opposition, mais il y a des travaux différents, de préalables différents. Donc, justement, parce que le festival le permet, on a travaillé aujourd'hui sur l'univers singulier, travail sur les œuvres quand même. La prochaine rencontre aura lieu le 14 avec une question aussi, une question à mon avis très importante et qui est inspirée véritablement par la problématique du festival, le rapport entre performance et mise en scène. Donc au fond ça prouve que justement ce qu'on disait tout à l'heure, le festival est habité par des tensions et que parfois assez rapidement, certains choix ont occulté la présence des options différentes. Voilà. Je vous remercie et donc nous, on a rendez-vous le 14. Merci beaucoup.